Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainard Tree. Aujourd'hui, je résumais et critiquais le livre Gamelin. La tragédie de l'ambition est une biographie historique consacrée au général Maurice Gamelin, figure centrale et controversée de la débâcle française de 1940. Max Chiavone y propose une lecture analytique de sa carrière en cherchant à dépasser l'image simplificatrice du chef militaire rendu responsable de la défaite. Le livre s'intéresse à la façon dont un officier réputé brillant, bénéficiant de la confiance des responsables politiques, a pu se retrouver à la tête des armées françaises, dans des circonstances qui ont conduit au désastre. L'ouvrage ne se limite pas au seul personnage de Gamelin, il examine aussi les mécanismes de sélection des élites militaires, les jeux d'influence au sein de l'institution et les effets durables des choix politiques sur l'organisation de l'armée. À travers cette enquête, l'auteur éclaire les tensions entre mérite, carrière, loyauté politique et préparation stratégique dans la France de l'entre-deux-guerres. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Maurice Gamelin, de l'officier prometteur au symbole de la défaite. Le livre part d'un paradoxe historique. Maurice Gamelin a longtemps été perçu comme l'un des officiers les plus brillants de sa génération, avant d'être durablement associé à l'échec de mai 1940. Max Chiavone s'attache à comprendre comment cette trajectoire a pu se construire et se renverser. L'intérêt n'est pas seulement biographique. Il est aussi méthodologique, car l'auteur refuse de réduire Gamelin à une caricature de l'incompétence. Il montre qu'un destin militaire se joue dans la durée, à travers des réussites accumulées, une réputation d'excellence et une progression institutionnelle qui rendent ensuite la chute plus brutale. Cette approche permet de replacer la défaite dans une histoire plus longue où la réussite initiale peut masquer des fragilités de commandement, d'analyse ou de vision stratégique. Le portrait devient alors celui d'un homme dont la carrière illustre la difficulté de mesurer, avant l'épreuve décisive, la solidité réelle d'un chef. Deuxièmement, les ressorts politiques de la nomination au commandement suprême. Un des apports essentiels du livre est d'interroger les raisons pour lesquelles Gamelin a été choisi pour occuper le poste le plus élevé. Chiavone ne traite pas cette nomination comme une évidence historique, mais comme le produit de rapports de force, de fidélité et d'arbitrage politique. L'ouvrage souligne que la confiance accordée à Gamelin ne s'explique pas seulement par ses compétences perçues, mais aussi par les attentes des dirigeants civils et militaires. Cette analyse met en lumière un problème classique des institutions, le sommet n'est pas toujours occupé par le plus adapté à la fonction, mais par celui qui correspond le mieux à un équilibre momentané d'intérêt. En reconstituant les motivations de ceux qui l'ont soutenu, l'auteur montre comment une décision apparemment rationnelle peut devenir catastrophique lorsqu'elle s'appuie sur des présupposés faux sur le contexte stratégique. Le livre éclaire ainsi la responsabilité collective qui entoure les grandes nominations militaires. Troisièmement, la gestion des carrières d'officiers et ses effets durables sur l'armée française, au-delà du cas individuel. L'ouvrage met en avant une question structurelle, la manière dont l'armée française a géré les trajectoires de ses officiers au XXe siècle. Chiavone explique que le cas Gamelin résulte de la conjonction entre une politique de sélection fondée sur des appréciations scolaires et des choix institutionnels qui ont laissé des traces durables dans la gestion des ressources humaines militaires. Cette perspective est importante car elle déplace l'explication du drame de 1940 vers les mécanismes de formation et de promotion des élites. Le livre suggère qu'une armée peut produire de très bons administrateurs de carrière sans garantir pour autant des chefs adaptés à une guerre de grande ampleur. L'enjeu est donc de comprendre comment les critères de sélection façonnent les profils promus, les hiérarchies internes et finalement, la qualité du commandement en situation de crise. Cette lecture donne à la biographie une portée institutionnelle et presque systémique. Quatrièmement, intrigue, alliance et rivalité au sein des élites militaires et politiques. Le livre accorde une place importante aux relations entre les acteurs qui gravitent autour de Gamelin. Chiavone ne présente pas la décision militaire comme le fruit d'un raisonnement isolé, mais comme le résultat d'un environnement fait d'alliances, d'ambitions personnelles et de compromis. Cette dimension éclaire la manière dont les élites se soutiennent, se neutralisent ou se remplacent dans un système où la carrière dépend autant des réseaux que des compétences. L'auteur cherche aussi à restituer la personnalité complexe de Gamelin, en tenant compte de sa vie publique et privée, de ses expériences et de ce qui a pu le pousser à agir comme il l'a fait. Ce choix narratif et analytique permet de comprendre que les erreurs de 1940 ne relèvent pas seulement d'un défaut individuel, mais d'un contexte relationnel où les responsabilités sont partagées. Le livre gagne ainsi en finesse en montrant comment les structures d'influence peuvent produire des décisions collectives mal ajustées. En dernier lieu, comprendre autrement la catastrophe de 1940 à travers un cas exemplaire. L'intérêt majeur de l'ouvrage est de proposer une lecture nuancée de la défaite française en prenant le cas Gamelin comme point d'entrée. Plutôt que de se limiter à une condamnation rétrospective, Schiavon invite à réfléchir à ce qu'aurait changé la présence d'un autre chef à la tête des armées, sans prétendre qu'un autre général aurait nécessairement gagné la guerre. Le livre suggère qu'un commandement différent aurait pu éviter la tournure particulièrement désastreuse prise par les événements. Cette hypothèse donne au lecteur une clé de compréhension utile. La défaite n'est pas seulement militaire, elle est aussi organisationnelle, politique et humaine. Le cas Gamelin devient alors un observatoire des limites du commandement en temps de crise, des effets d'une mauvaise sélection des dirigeants et de la difficulté à distinguer prestige et capacité réelle. Cette approche rend le livre pertinent pour quiconque veut comprendre les causes profondes d'un effondrement stratégique. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire militaire, aux passionnés de la Seconde Guerre mondiale et à ceux qui s'intéressent aux mécanismes de décision dans les institutions de défense. Il conviendra aussi à un public plus large curieux de comprendre comment une carrière exemplaire peut aboutir à un désastre collectif lorsque les logiques d'énomination, de hiérarchie et de contexte politique prennent le pas sur l'évaluation stratégique. Son principal intérêt est de ne pas se contenter d'un portrait accusateur. Il replace Gamelin dans un ensemble de contraintes, de relations et de choix institutionnels qui expliquent mieux la tragédie de 1940. Par rapport à d'autres biographies militaires, l'ouvrage se distingue par sa volonté de relier le destin individuel à une réflexion sur la gestion des élites et sur la responsabilité des décideurs. Le lecteur en retire à la fois une meilleure compréhension du commandement français avant 1940 et une lecture plus générale des risques liés aux promotions fondées sur le prestige plutôt que sur l'adéquation aux crises réelles. Si vous souhaitez soutenir Max Schiavon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.